il se passe un dérèglement immunitaire qui fait que le pancréas, qui est l'organe qui fabrique l'insuline, spécifiquement ne va plus se mettre à fabriquer d'insuline parce que son système immunitaire de l'enfant se met à détruire les zones de fabrication d'insuline. Donc il se retrouve en carence d'insuline totale, définitive, et il faut amener de l'insuline au quotidien, tous les jours, suite au diagnostic.
Depuis l'Antiquité, les médecins connaissent le diabète, mais ils ne savent le soigner que depuis 100 ans. À la fin du 19e siècle, on avait compris que le pancréas jouait un rôle dans l'apparition de la maladie, mais c'est en 1922, à Toronto, qu'une équipe pluridisciplinaire composée de John MacLeod, Frederick Banting et Charles Best découvre l'insuline, cette hormone sécrétée naturellement par le pancréas, mais pas par celui des diabétiques. Cette découverte capitale pour l'humanité sera récompensée dès l'année suivante par le prix Nobel de médecine. La maladie, ce diabète de type 1, constamment mortel, devenait soignable grâce à leurs travaux. Depuis un siècle, la recherche a naturellement progressé, et la technologie avec elle. Les patients doivent toujours s'injecter de l'insuline quotidiennement, mais ils peuvent suivre leur glycémie en temps réel, et de petites pompes leur permettent, s'ils le souhaitent, d'éviter les piqûres qu'ils devaient se faire eux-mêmes.
Oui, je crois que le mot piqûre est venu. Ce que j'avais compris, c'est qu'on m'avait dit si tu ne prends pas d'insuline et donc de piqûre, tu n'en as pas pour plus de 4 ou 5 mois à rester en vie.
Le diabète insulino-dépendant touche près de 200 000 personnes en France. L'âge médian du diagnostic de la maladie est de 8 ans. Et le nombre de diagnostics augmente pour des raisons encore incertaines de 4% par an. D'où la nécessité d'apprendre très vite à ces jeunes enfants comment vivre avec leur maladie.
Alors là, je prends une aiguille, je prends un réservoir, je prends une seringue, cathéter, une tubulure, un flacon d'insuline.
Alors, des compresses, tiens, je les donne, celle-là.
Et de bicéphile.
Voilà.
L'association AJD, Aide aux jeunes diabétiques, accompagne les familles depuis 65 ans. Véronique Julia s'est rendue en Normandie dans un des centres de cette association. Diabète sauvé mais pas encore guéri, c'est un reportage de Véronique Julia avec une prise de son de Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à la JD sur notre centre de Gouville-sur-Mer.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ?
Alors ici, on accueille des enfants qui ont un diabète de type 1, certains sans leurs parents pour les plus grands et d'autres avec leurs parents. Et on va les accompagner pendant une semaine sur la prise en charge du diabète de leur enfant ou directement pour les enfants.
C'est ça qu'on appelle l'éducation thérapeutique ?
Exactement. L'objectif, c'est de transmettre des connaissances et des compétences aux parents pour qu'ils aient toutes les billes pour accompagner leur enfant et aux enfants petit à petit pour une prise d'autonomie et grandir le mieux possible avec leur diabète et dans l'objectif de réaliser leur projet de vie, quel qu'il soit, avec le moins d'inconvénients possible et en étant le moins freiné par la maladie.
Pourquoi ? Parce que c'est une maladie hyper complexe, le diabète ?
C'est une maladie très technique. Et quand on n'a pas de diabète, on ne se rend pas compte, on mange, on fait du sport et notre glycémie, elle reste stable. Chez ces enfants, ils vont devoir faire ce que fait le corps habituellement, c'est-à-dire mesurer la glycémie, puisqu'il n'y a plus cette information-là, donc il y a des outils pour le faire. Ils doivent évaluer la quantité de glucides qu'ils vont consommer et ils doivent évaluer leur activité physique. Et à partir de ces trois données, ils vont choisir une dose d'insuline.
Tout ça, ça s'apprend.
Tout ça, ça s'apprend d'un point de vue de la réflexion et ça s'apprend d'un point de vue de la technique.
Chaque repas est une préparation un peu.
Chaque repas s'anticipe et on doit se poser et réfléchir à ses paramètres avant d'aller prendre le repas. Donc on n'a pas le choix d'apprendre. On connaît la maladie, l'impact dans la vie sociale et l'impact, cette charge mentale, elle a toujours existé. On est là pour accompagner ces enfants pour que ce fardeau, il soit un petit peu moins important à la sortie.
Donc là, on va aller au bâtiment qu'on appelle la charterie et on va aller voir le réveil des enfants puis le temps d'adaptation des doses avant qu'ils aillent prendre leur petit déjeuner.
Bonjour. Tiens, assieds-toi. T'as pris ton matériel ?
Ouais.
Ouais. C'est comment ton prénom déjà, toi ?
Eloi.
Ah bah oui, Eloi. D'accord. Comment t'as dormi, Eloi ?
T'as bien dormi ?
Ouais.
Ouais. Alors, dis-moi, montre-moi ta glycémie. Tu te scannes. 281. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, c'est trop.
Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi t'as été haut comme ça toute la nuit ?
Non.
Non. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger au petit déjeuner ?
Bah, du coup, des céréales, je crois. Je pense que je vais en prendre bien un bol.
Oui. Est-ce que tu sais combien ça fait de glucides ?
J'avais vu, ça fait 20 grammes un bol, je crois.
20 grammes, ça me va, si tu comptes 20 grammes.
Ok. Je vais prendre un bol de chocolat chaud, donc ça fait déjà 40. Vu que j'ai encore vraiment faim, je vais prendre... Bah, du coup, un verre de jus de fruits, 60.
Tu comptes 20 pour le verre de jus de fruits ?
Ouais, c'est 20. Et après, je pense que bah, je vais prendre aussi 4 biscottes et 4 trucs de confiture.
Tout ça ?
Ouais.
Donc t'as très faim ?
Oui, ça fait 100.
Une biscotte, ça fait combien ?
5.
D'accord. Et la confiture ?
5.
Est-ce que tu sais ce que tu fais comme activité ce matin ? Il y a un grand jeu sportif. Tu vas faire le jeu sportif ?
Oui.
D'accord. Donc 5,8 unités pour les 100 grammes de glucides du repas. Mais tu vas faire du sport après.
Ouais, donc on peut baisser de 0,5 ou 1.
Je pense qu'on peut baisser facilement de 1, oui. Super. Eh bien, bon appétit.
On va où, là ?
Au réfectoire. Ça tombe bien parce que moi, je commence à avoir faim. Bah, c'est cool. Ouais, juste encore une fois, les fixes nous ont réveillés.
Mais non.
Si.
Pas possible. C'est le petit déj, quoi.
Bah, du coup, j'ai compté 4 biscottes avec 4 cuillères de confiture.
Ouais.
Un verre de jus de pomme, un demi-bol de céréales et un verre de chocolat chaud.
Allez. Vas-y, tu t'occupes bien. Moi, je m'occupe du jus de pomme et du chocolat chaud, ça te va ?
Ok.
Ouais, c'est un bol.
Donc là. En confiture, c'est bon. Du coup, bah, il me faut juste une cuillère.
Comment tu t'appelles ?
Eloi. J'ai 11 ans dans 2 mois.
Et le diabète, ça date de quand ?
J'avais 6 ans et 5 mois. Même moi, il y avait déjà ma grande sœur qui avait le diabète, donc on connaissait. Et je me sentais vraiment très mal, j'avais pas faim. J'avais vraiment envie de vomir, je voulais pas dormir. Et là, bah, j'étais à 413. Largement au-dessus du... Parce qu'en moyenne, quand on n'est pas diabétique, on est à 100, quoi. Donc là, j'étais à 413. Du coup, moi, j'ai flippé. Du coup, bah, je suis allée à l'hôpital. Et du coup, j'ai dormi là-bas. Et le lendemain matin, on m'a dit que j'avais le diabète. Au début, ça m'avait fait un peu peur. Parce que c'est juste, je me disais bah, que j'allais avoir ça toute ma vie. Et que ça allait... Mais après, bah, je me suis dit qu'il y avait dû ma grande sœur... qu'il avait, mes parents ils savaient gérer et tout, donc ça allait quoi, mais enfin bon, c'est quand même particulier.
Bon, au quotidien, comment tu gères ça ?
Au quotidien, ça va, parce que bah, ça me dérange pas. Pour les copains, l'année dernière, j'avais fait un exposé, du coup, bah, ils étaient contents, ils savaient. Et puis sinon, bah, je le vis comme avant. Enfin, avant, je m'en rappelle même plus, mais bon, je suis avec, quoi. Je rentre chez moi, si j'ai envie de me prendre un goûter, je regarde combien de gâteaux ils font. Et puis j'écris un chiffre sur quelque chose qui ressemble à un téléphone. Donc moi j'aime beaucoup les écrans, ça me dérange pas. Puis après bah, c'est bon, je suis tranquille quoi. Enfin, pour moi ça c'est pas une charge dans ma tête, non.
Non ?
Non, c'est vraiment, c'est tranquille.
Quand tu étais petit, les piqûres c'était dur ?
Ouais, ça me faisait mal. Mais du coup quand on m'a proposé de passer à la pompe, j'ai réfléchi et puis après je me suis dit bah ouais ce serait cool. Je trouve que ça fait moins mal.
Qu'est-ce qu'on t'a appris ici en fait ?
Ouais, on m'a appris le nombre de glucides. Par exemple, dans le pain, je sais que c'est la moitié du poids. Bah, par exemple, pour 50 grammes de pain, on a 25 grammes de glucides. Pour les riz, pâtes, pour les frites, voilà, c'est 30%.
Par exemple, le raisin, c'est 1 gramme de glucides par grain.
Et quand tu fais du sport, alors là, pour le coup, tu dois mettre moins d'insuline.
Oui. Et quand on se dépense, bah, ça enlève du sucre.
Bah, dis donc, à 11 ans, tu penses à tout ça tout le temps ?
Non. Mais vraiment, le diabète, j'y pense même pas du tout. C'est...
Bah, tu nous dis quand même que tu dois penser à plein de trucs et tu dis, mais en même temps, j'y pense pas. Comment tu fais ?
En fait, je pense juste pas aux choses du diabète, mais sinon, c'est...
C'est automatique ?
Ouais, voilà.
La pose des appareils, c'est ici aussi, non ? À l'hôpital ?
La pose des appareils, en fait, souvent, je les pose pas moi-même. Et d'habitude, c'est ma mère qui fait tout.
Est-ce que tu peux me décrire ce que t'as ?
Là, il y a le capteur. Donc, c'est un petit truc rond, voilà.
C'est quoi ?
Alors... Ça sert à mesurer le taux de sucre dans le sang.
C'est posé sur ton bras ?
Oui. Ça se change tous les 15 jours, on scanne.
Ah, on scanne sur la pastille, là, qui est sur ton bras. Et ça donne le taux de glycémie.
Oui. Sinon, là, j'ai ma pompe qui sert à m'injecter de l'insuline. On peut poser aux bras, aux jambes, au ventre et aux fesses, mais moi, vu que je cours tout le temps, les jambes, c'est pas pratique.
C'est grand comment ?
Ça fait...
C'est quoi, une boîte d'allumettes ? Une grosse boîte d'allumettes ?
Ouais.
Ça te gêne, quotidien ?
Non. Au début, ça gêne pendant une heure, parce qu'on le sent. Mais là, bah, je sens même pas, je l'ai sur moi, quoi. Je sens même pas.
Bon appétit, les garçons.
Merci. Merci.
Alors, Marc de Cardanet, je suis médecin pédiatre spécialisé en diabétologie à l'hôpital de Rennes. Et par ailleurs, et depuis des années, je suis membre de l'AJD et depuis 6 ans, président de cette association qui est l'aide aux jeunes diabétiques.
Alors, l'aide aux jeunes diabétiques, c'est quoi ?
Alors, ça existe depuis les années 60. Ça a commencé vraiment les prémices de cette association en 53. C'est Henri Lestrade, qui est notre fondateur, un pédiatre, un jeune pédiatre qui était parti faire un stage aux États-Unis pour étudier. Et il était également fanat de tennis. Et donc, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Bill Talbert, qui était un monsieur qui était dans le circuit des Henri Cochet et autres Lacoste, et qui avait un diabète. Et donc, il ne comprenait pas bien comment il était possible que quelqu'un avec un diabète de type 1 puisse être sportif de haut niveau, alors que lui, il venait de lâcher dans son hôpital un service où il y avait des enfants qui étaient hospitalisés 6 mois sur 12, comme des pauvres petits malades qui ne pouvaient pas faire leur vie.
Pourquoi à l'époque c'était ça ?
À l'époque c'était ça. C'était je ne vais pas toujours à l'école, je vais souvent à l'hôpital, je ne fais pas de sport, je suis soumis à un régime diététique extrêmement sévère où on essaye de retirer tout ce qui est sucre. La majorité ne pouvait pas vivre une vie correcte. Voilà, alors d'une part il se dit c'est pas possible que les enfants vivent comme ça, et d'autre part il se dit cette personne que je rencontre est capable de vivre une vie normale, épanouissante. Il comprend qu'il y a quelque chose à faire là, et ce quelque chose principalement, en fait, c'est de considérer que le patient a une compétence, que cette compétence va pouvoir être utilisée pour le soin et pour l'épanouissement à la fois.
Il dit aussi qu'il faut laisser vivre ses enfants.
Tout ça pour les laisser vivre le mieux possible. Ils peuvent vivre une vie plus normale, puisqu'ils se soigneront eux-mêmes. Et en fait, il veut les émanciper d'une certaine façon. Et effectivement, il fait le premier séjour pour enfants diabétiques de vacances, avec apprentissage, avec éducation médicale. Et ces enfants ressortent de là avec une nouvelle compétence, qui est une compétence de soins, mais aussi une compétence pour vivre avec.
C'est de là qu'est né le concept de l'AJD.
C'est ça, tout à fait. Le concept de l'AJD, c'est l'enfant et ses parents peuvent apprendre à faire le soin pour une plus grande liberté, une plus grande légèreté dans leur vie quotidienne, malgré la présence de cette maladie.
À Gouville-sur-Mer, on trouve aussi parfois des grands-parents qui viennent se former pour accompagner leurs petits-enfants. Ils en ont la garde souvent, ils veulent donc se familiariser avec la gestion quotidienne de la maladie. Parmi eux, Régine. Régine a un parcours singulier car son fils et son petit-fils sont diabétiques. Ça n'est pas si fréquent car le diabète peut arriver dans une famille sans aucun antécédent.
Donc je m'appelle Régine, je suis concernée depuis 1995 puisque mon fils à 8 ans a été diagnostiqué diabétique de type 1.
Il a quel âge aujourd'hui ?
Il a 35 ans aujourd'hui. Et j'ai aussi donc un petit-fils, qui est donc le fils de ce fils qui est diabétique, qui a été diagnostiqué en 2019 et qui a maintenant 5 ans.
La faute n'a pas de chance, là.
Ben, on savait qu'il y avait un peu plus de chance qu'il ait un de ses enfants diabétiques, mais ça n'avait rien d'automatique. Ben, ça a été un peu un coup de tonnerre quand même, hein, parce que sur le coup, j'ai eu l'impression d'une redite quand même.
Mais qu'est-ce qui a changé en 25 ans ?
Alors, ce qui est comparable, c'est l'inquiétude des parents, qui reste la même. Ce qui a changé, ce sont les traitements. À l'époque, les enfants avaient des stylos injecteurs, et c'était assez nouveau d'ailleurs, puisque le diabétologue disait, bah, écoutez, maintenant, vous pouvez même aller au restaurant avec votre enfant, vous faites l'injection, et c'est ce qu'on a fait, on allait au restaurant, hop, sur la cuisse. Ce qui ne se fait plus donc aujourd'hui, puisque mon petit-fils a quasiment eu la pompe.
Tout de suite.
Et cette pompe n'existait pas du tout en 95. Et ce qui a changé, donc, c'est les traitements qui sont beaucoup plus précis maintenant. Puisqu'à l'époque, par exemple, au moment du coucher, mon fils allait au lit, on faisait une dernière glycémie, et après, de toute la nuit, on ne savait plus rien. Et du coup, on s'inquiétait en tant que maman, donc de temps en temps, on se relevait, faisait bouger l'enfant, bon, s'il avait l'air de bouger normalement, qu'il n'était pas pâle, on retournait se coucher.
Vous aviez peur qu'il tombe dans le coma ?
Ah oui, tout à fait. Je ne dormais pas tranquille.
Donc votre fils, diagnostiqué en 95, il est resté au stylo injectable, donc il a fait des piqûres plusieurs fois par jour.
Oui.
Jusqu'à quand ?
Alors presque jusqu'à sa majorité.
Et alors votre petit-fils maintenant ?
Alors lui, ben, on est tout de suite rentré dans la technologie. Effectivement, ils ont assez vite envisagé ça pour lui. Il a toujours une petite pochette autour de la taille avec un zip et la pompe est dedans.
Et puis il a un capteur.
Et donc il a un capteur au bras.
Vous pouvez suivre sa glycémie en continu.
Là j'ai un téléphone où je suis sa glycémie en continu.
Même quand il est loin.
Oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus rassurant. Moi qui n'ai pas du tout connu ça, je trouve que ben, on sait tellement de choses là que...
Et le capteur, la tentation n'est pas grande de le regarder sans arrêt ?
La tentation serait d'aller regarder toutes les 5 minutes. Ça donne aussi comme un petit stress quand même. Hein.
Ça, c'est l'atelier cuisine. On apprend aux enfants à cuisiner en faisant attention au taux de glucides qu'ils mettent dans leurs recettes. C'est quoi là ?
Des cookies.
Des cookies ?
Oui. Je fais des cookies à la noix de coco.
Tu t'appelles comment ?
Léane.
Léane. Et toi ?
Anna, tu veux du sucre ?
Non, moi je veux pas de sucre. On fait des cookies pour diabète ou pas du tout ?
Non, c'est une recette complètement lambda. Juste le but, c'est d'adapter la dose d'insuline pour qu'ils puissent en manger comme nous, notre corps le fait, quoi. Mais sinon, c'est tout, il y a du sucre normal.
On fait pas des recettes sans sucre, en fait. On mange comme tout le monde.
Ouais, ils calculent en fonction de la farine et des sucres qu'il y a dedans. Et puis...
Ouais, alors un cookie au chocolat, là, comme ça, ça fait combien de glucides ?
Ouais, ça fait 5-10 grammes.
Donc ça veut dire quoi ? Ils doivent se mettre combien d'insuline ?
Et ça dépend de chacun. En fait, ils ont des ratios, c'est-à-dire qu'ils ont une unité d'insuline est égale à tant de glucides, et c'est chacun à son propre ratio.
Forte charge mentale pour les jeunes patients, obligés de penser sans cesse à leur façon de s'alimenter, et angoisse permanente pour les parents, comme on vient de le voir avec Régine, le diabète est décidément un compagnon de route désagréable. Pourtant, en quelques décennies, le professeur Gérard Réac, diabétologue et enseignant d'endocrinologie à l'Université Paris 13, a vu évoluer les traitements, bien sûr, mais aussi leur mode d'application. Ça fait 45 ans qu'il a rencontré son premier patient diabétique, comme il le raconte à Véronique Julia.
Interception sur France Inter.
C'est le 1er avril 1976, j'ai 26 ans. Et j'arrive comme interne dans le service de diabétologie de l'Hôtel Dieu. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui avait un diabète, qu'on venait de découvrir. On lui avait annoncé qu'il avait sûrement un diabète de type 1, parce qu'il avait perdu du poids, parce qu'il était fatigué, et qu'il devrait se faire des piqûres d'insuline toute sa vie. Voilà. À l'époque, c'était en 76, il y avait heureusement eu déjà un progrès. Il n'y avait plus de seringue en verre qu'on devait stériliser au poupinel, vous imaginez. il y avait déjà des seringues en plastique, jetables. Et ça avait déjà été un très gros progrès. Mais il n'y avait pas encore de mesure de la glycémie au bout du doigt. On mesurait le sucre dans les urines. Pour mesurer le sucre dans les urines, on utilisait des comprimés qu'on faisait tomber dans un tube à essai. Puis ensuite, on mettait 5 gouttes d'urine et 10 gouttes d'eau avec un compte-gouttes. Il se produisait une réaction chimique. Il fallait tenir le tube par le bout parce que ça chauffait. Et il y avait une couleur qui apparaissait qu'on comparait à une gamme. Et on disait, il y a une croix de sucre, deux croix de sucre, trois croix de sucre, quatre croix de sucre. C'était ça la surveillance du diabète à l'époque. C'était un traitement très inconfortable. Avec des seringues, c'était déjà pas mal, des seringues jetables. Deux fois, trois fois par jour, souvent. Mais parfois, on continuait à faire une seule piqûre d'insuline par jour. C'était très insuffisant. Le diabète, on ne savait pas le mesurer. On ne savait regarder que dans les urines, qui était quelque chose d'incroyablement grossier. C'était à l'aveugle. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est que dans les années 30-40, toutes ces personnes qui avaient survécu de leur diabète, qui n'étaient pas mortes, avaient des complications épouvantables. Parce que trop de sucre dans le sang, ça crée des complications terribles. Quand je faisais la consultation dans la salle d'attente, un patient sur deux venait avec une canne blanche, aveugle. Ou bien, ils mouraient d'insuffisance rénale, parce qu'on ne les dialysait même pas. Ou bien, ils avaient des lésions au niveau des pieds épouvantables. Donc, c'était cécité, mort d'insuffisance rénale, amputation. C'était l'effroyable destin qu'on pouvait presque prédire. L'espérance de vie était, à mon avis, diminuée de moitié. C'est-à-dire, c'était 45-50 ans, mais bon, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui s'en sortaient très bien. Mais faire un diagnostic de diabète de type 1 à l'époque, c'était terrible. L'avenir était sombre. On était entre Charybde et Scylla. Charybde, c'était l'hypoglycémie tombée dans les pommes. Et Scylla, s'il n'y avait vraiment pas suffisamment d'insuline et trop de sucre, etc., c'était l'acidocéto, c'était ce qu'on appelait le coma diabétique dont on risquait de mourir. C'était redoutable, à dire. Et tout ceci s'est amélioré petit à petit grâce au progrès des traitements. Et je dois dire que 20 ans après, il y avait beaucoup moins de rétinopathie, d'atteinte des yeux, beaucoup moins d'atteinte rénale. L'épée de Damoclès des complications, elle s'est éloignée.
L'épée de Damoclès s'est peut-être éloignée, mais les écarts de conduite se payent cher. Un diabète mal équilibré, comme on dit, quand on a trop souvent trop de sucre dans le sang, ça peut faire de gros dégâts sur le long terme, car l'excès de sucre abîme au fil des ans les vaisseaux sanguins. Laurent, diabétique depuis plus de 50 ans et qui a longtemps manqué de discipline et d'outils, en sait quelque chose.
Alors moi, je m'appelle Laurent, j'ai 64 ans et je suis diabétique depuis 1970, janvier 70. J'avais 12 ans et chouïa, quoi, 12 ans et demi. Ouais.
Alors Laurent, vous, votre diagnostic de diabète, vous vous en souvenez ?
Ah oui, j'avais maigri beaucoup. J'étais allé dans une colonie de vacances que je ne faisais jamais, mais mes parents m'avaient envoyé l'hiver dans le Massif central. Et je me rappelle que j'étais tombé malade, mais je sais pas ce que j'avais. Mais j'étais resté, je crois, alité quasiment tout le séjour. Et en revenant, j'avais maigri de 5 kilos en même pas 10 jours, quoi. Et je me rappelle, il y a quand même un détail, c'est que j'avais hyper, hyper soif. Mais hyper soif. J'ai fini à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, une salle commune, il y avait plein de patients, il y avait des lits partout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont diagnostiqué le diabète. C'était un mot que personne ne connaissait à l'époque. Il n'y en avait pas dans la famille. Je sais qu'à l'époque, j'avais qu'une seule hantise. C'était, je ne voulais surtout pas de piqûres, j'avais très peur des piqûres.
Mais comment on vous l'annonce? On vous dit, c'est des piqûres à vie, c'est quoi?
Oui, je crois que le mot piqûre est venu. Ce que j'avais compris, c'est on m'avait dit, si tu ne prends pas d'insuline et donc de piqûres, tu n'en as pas pour plus de 4 ou 5 mois à rester en vie. Ma mère faisait stériliser dans une casserole, dans sa cuisine, les seringues. Et puis c'est elle qui devait remplir le flacon. Et puis me faire la piqûre. D'ailleurs, oui, c'est elle qui m'a fait la piqûre dans les premières années. J'étais incapable de me faire une piqûre. En plus, c'était des grosses seringues lourdes en verre.
Et le suivi de la glycémie, pour savoir si vous aviez du sucre ou pas dans le sang, ça se passait comment?
C'était des petites bandelettes. Et selon la couleur qui apparaissait après le jet d'urine qu'on mettait, alors vert, je crois, où c'était bon. C'était un genre où on n'a pas beaucoup de sucre dans les urines. Et alors si c'était rouge, violacé, noir, ça voulait dire, oulala, tout ne va pas si bien.
On faisait ça combien de fois par jour, les bandelettes?
Ah bah, c'était matin, midi et soir.
En fait, c'était pas très précis.
Bah non. Moi, j'avais ma piqûre pour la journée. Il fallait juste faire attention à ne pas manger trop de glucides, trop sucrés, c'est-à-dire pas trop de pain, pas trop de pâtes. Maintenant, avec les contrôles, je m'aperçois que j'aurais eu ça. Peut-être que je n'aurais pas fait accident vasculaire cérébral, infarctus, et puis perdre l'œil gauche, quoi. Moi, j'ai fait des excès de tout. J'ai fait des excès d'alcool, de bouffe, de machin. Quand j'étais en 6e, 5e, aux récréations, on sortait du lycée, c'était à Nogent-sur-Marne, on allait s'acheter plein de bonbecs et j'en mangeais plein. Mais plein.
Ah ouais. Donc vous avez finalement, de façon chronique, vécu en hyperglycémie permanente.
Je pense que j'ai dû vivre, ouais, plutôt... Mais non, mais j'avais aussi des fringales vertigineuses. Hein. Mais je l'ai payé au prix fort, c'est-à-dire que 30 ans, 40 ans après, j'ai fait un AVC, un infarctus... j'ai perdu l'œil gauche. Je paye les excès de ma jeunesse, mais aussi le fait que cette maladie n'était pas à l'époque. Il n'y avait pas les outils de contrôle. Tout ce que j'ai fait, alors comme excès ou etc., j'aurais pu les éviter si j'avais eu tous les instruments de contrôle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire savoir le taux de sucre qu'on a dans le sang, comment ça évolue dans la journée. Et on sait où on en est. Et ça, jamais je l'ai su, moi, dans ma jeunesse.
C'est les outils qui vous ont manqué. Vous étiez à l'aveugle.
Ben, j'étais, oui, au jugé. Et puis du coup... permissif avec moi-même. Tiens, je vais boire un coup, tiens, je vais faire la fête, tiens, je vais...
Vous, en fait, on ne vous a pas éduqué.
Mais c'était une éducation sommaire.
Et aujourd'hui, on vous dit que tous les problèmes que vous avez, ils sont directement liés au diabète ?
À tous. Bah oui, parce que ça marque l'intérieur du corps. C'est-à-dire mes artères calcifiées, c'est le diabète.
Cette éducation qui a tant manqué à Laurent, elle fait pleinement partie aujourd'hui des protocoles. À l'hôpital, les enfants et leurs parents sont accompagnés à toutes les étapes de leur apprentissage, comme ici à l'hôpital Necker à Paris, où Élie et Naïl, qui viennent d'abandonner les piqûres quotidiennes pour la pompe à insuline, apprennent à en maîtriser la pose.
Alors du coup, c'est toi qui commences, Naïl ?
S'il veut, il commence. Hein.
Bah, je sais pas. Tu veux le faire ?
Alors... Ok, alors là, je prends une aiguille.
Sors tout ce dont tu as besoin.
Je prends un réservoir. Dedans, on mettra toute l'insuline. Je prends une seringue. On prend un cathéter. Et qui manque ? Ah oui, une tubulure. On a besoin d'un flacon d'insuline.
Tu as besoin de quoi encore ? Deux autres choses. Alors, des compresses, tiens, je te les donne, celle-là. Voilà.
Et de biceptiles.
Voilà.
On ouvre la petite seringue. Donc, on ouvre le
cathéter.
Voilà.
Alors, en fait, on change le réservoir et le cathéter tous les 3 jours. On change l'ensemble.
Tac, tac, tac. Et le flacon.
Tiens, le réservoir en bas.
Mais comment je fais ?
En même temps, justement. Tu trouves.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le moment un peu compliqué de cette pompe. Voilà, et maintenant, c'est une manipulation un petit peu...
Ouais.
Mais on n'a pas le choix.
Je mets l'aiguille là.
Ouais, pose là.
Je sors ma pompe. Là, 1, 2, 3.
Tu nous dis ce que tu fais parce que comme on voit
je
pas...
Je fais 1, 2 et 3. Ensuite, je vais dans options. Et là, j'appuie sur remplacer le réservoir. J'ouvre la pompe.
Donc là, ça veut dire que maintenant, il va falloir poser le cathéter, donc préparer la peau, 3 secondes.
Ensuite...
Attends 2 secondes, s'il te plaît, Élie, que maman est finie.
Parce que...
Voilà, il faut faire tout délicatement avec ça, parce que... Tu dois bien entendre un petit clic.
Voilà.
Fais attention à la tubulure.
Il faut faire attention à la tubulure.
Voilà.
Et là...
Tiens, maintiens. Voilà, très bien. Super.
Donc là, on a mis un petit quart d'heure avec Élie pour faire la pose du cathéter, un peu plus. Après, quand il aura l'habitude, ça prendra combien de temps ?
On va dire 10 minutes maximum. Après, le truc, c'est vraiment là, ce qui est difficile au départ quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'en fait, on se disperse un petit peu. Enfin, c'est vraiment de faire les choses vraiment dans l'ordre, bien, de ne pas oublier des choses. En fait,
ça a l'air un peu compliqué, là, quand même.
C'est beaucoup plus compliqué, comme ça, de prime abord, que de faire une injection d'insuline. Mais sincèrement, une fois qu'on a compris un petit peu le déroulement de chaque chose, franchement, c'est... C'est assez rapide. Enfin, moi, je sais que je manipule des pompes depuis des années. Voilà, quand je le fais moi-même, c'est extrêmement rapide parce qu'on sait exactement...
Il revient pas 5 ans après pour s'en plaindre.
En général, non. Hein. Alors moi, je m'appelle Isabelle Jourdon, je suis infirmière puéricultrice et on fait toute l'éducation thérapeutique pour tous les enfants. Là, ils viennent pour la pompe insuline, donc moi, là, toute la semaine, j'ai appris aux parents et aux enfants à manipuler la pompe.
Vous, Isabelle, ça fait combien de temps que vous formez les enfants comme
depuis
ça
1995.
Ah oui. Alors, c'est quoi le changement?
Oh, alors là, c'est beaucoup de changements ces dernières années. Moi, j'ai commencé avec des mélanges d'insuline à la seringue, des lecteurs qui mettaient 2 minutes avant de donner la glycémie, où il fallait mettre une goutte énorme dessus, des insulines qui étaient en suspension, des qu'il fallait mélanger, qui duraient moins longtemps, qui étaient... Moi, quand j'ai commencé, on devait attendre 30 minutes avant de manger après la piqûre d'insuline. Parce qu'en fait, elle mettait 30 minutes à agir. Donc c'était insupportable pour les enfants, attendre une demi-heure après une piqûre. Maintenant, il y a beaucoup de technologies, en fait.
Mais le quotidien des enfants, on est...
Je pense qu'il y a des choses qui facilitent, et moi, je ne sais pas si tout est facilité, parce que quand on fait une glycémie le matin, une le midi, et qu'on n'a aucun chiffre de glycémie entre les deux, on ne passe pas sa vie, en fait, à se demander pourquoi la glycémie, elle monte et elle descend, et c'est assez anxiogène, hein, des fois, pour certaines personnes.
D'avoir une glycémie
en continu, de voir les montées, les descentes, alors qu'avant, vous y êtes le matin, le midi. Je ne sais pas si c'est plus simple. Hein. Puis après, nous, il y a des enfants qui n'ont pas envie d'avoir une pompe et un truc collé sur eux. Il y a qui ne veulent pas avoir de capteur parce que ça se voit.
Oui. C'était le cas de Naïl. Au début, il ne voulait pas de pompe parce que voilà, il ne voulait pas avoir un capteur tout le temps. Il a vite changé d'avis.
Tu t'appelles comment, excuse-moi ?
Naïl.
Et Naïl, il a eu un diabète diagnostiqué il y a longtemps ?
Fin octobre de l'année dernière, donc ça va faire un an bientôt.
Et donc là, il est sous pompe ?
Oui, depuis une semaine.
Pourquoi ? Parce que les piqûres d'insuline, ça, il avait
du
mal ?
Il en voulait plus parce qu'il avait, mal à chaque fois qu'il se piquait. Et puis il avait des bleus partout. Donc voilà, donc à chaque fois avant de se piquer, c'était vraiment un calvaire pour lui. Et du coup, la pompe, c'était la solution.
Oui, à chaque fois de se piquer, à chaque repas, c'était insupportable.
Et puis le fait de penser toujours à avoir son insuline, quand on allait chez la famille, on était invité, toujours il fallait penser à prendre son insuline, puis même à l'école aussi, au collège, d'aller se piquer dans les toilettes et tout, c'était un petit peu... Parce que l'année dernière, en fait, juste après la découverte de diabète, il ne voulait plus manger à la cantine, donc du coup, il venait manger à la maison, parce qu'il ne voulait pas justement aller se piquer devant ses copains.
Ça te gêne d'avoir du diabète devant les copains ?
Non, mais après je leur dis. Mais c'était au début, ça...
Ils comprennent ?
Oui, ils comprennent.
Moi-même, je suis diabétique type 1 depuis 2006, donc ça va faire 15 ans. D'ailleurs, c'est moi qui ai détecté les symptômes assez rapidement, donc dès que j'ai vu qu'il faisait beaucoup pipi, je buvais beaucoup d'eau et tout, donc du coup, j'avais mon lecteur glycémie, je lui ai fait une glycémie, j'ai vu qu'il était à plus de 4 grammes, donc on l'a ramené en urgence, à Necker.
4 grammes, alors qu'il faudra avoir combien ?
Un 20, je crois que c'était après manger en plus, c'était 2 heures après manger, il était à 4,30 je crois.
On vous avait dit que c'était potentiellement génétique ?
Non, pas du tout. Moi c'était ma hantise, c'est la faute à pas de chance, hein. C'est comme ça. C'est...
Comment tu l'as vécu toi ? Comment tu as compris ? T'as compris tout de suite ?
Non, je me suis dit pourquoi moi ?
Ça t'a changé vraiment la vie ou pas ?
Un petit peu oui. Moi je me sens pas comme les autres. À chaque fois je dois me limiter pour le sucre. Par exemple, quand je vais à des anniversaires, je prends pas beaucoup de bonbons. Je me limite. Mais maintenant qu'on m'a mis la pompe, c'est mieux.
Mais elle fait tout toute seule, elle a tout compris ? C'est une pompe...
Non, c'est juste que je rentre l'insuline que je dois mettre et c'est fini.
D'accord, c'est pas une boucle fermée ?
Non, pas encore.
C'est-à-dire, c'est pas un pancréas artificiel où il y a le capteur et le distributeur d'insuline qui font tout seul ?
Non, ça sera ça en 2022.
Et ça, tu l'attends, ça ?
Oui.
Qu'est-ce que vous espérez pour son avenir, en fait ? C'est que ça se miniaturise
Oui, c'est ça. Ça se miniaturise aussi. Et puis, que les mentalités, elles changent aussi. Parce que récemment, il a appris qu'il y a des professions qu'il ne peut pas faire en tant que diabétique.
Quoi, par exemple ?
Il a toujours rêvé faire pilote d'avion que pilote de ligne. Du coup, ça, il a appris récemment qu'en fait, il y a quelques métiers en tant que policier, je crois, militaire.
Expert en aéronautique. Voilà.
Mais vraiment, j'ai vu la déception sur son visage. Quand il a su qu'il ne pouvait pas faire pilote de ligne à cause de diabète.
Ça va peut-être changer.
Oui, donc ce que je dis, à mon avis, ça va changer. Il y aura peut-être d'autres... ça va évoluer.
Tu as quel âge ?
12 ans.
Et vous, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 40 ans.
Toi, si tu t'imagines dans 20 ans, tu voudrais quoi? Avoir une toute petite machine?
Moi, j'imagine qu'ils vont trouver quelque chose pour réanimer les cellules du pancréas. Moi aussi, je veux savoir comment j'ai eu le diabète. Pourquoi mes anticorps, ils ont attaqué les cellules. C'est ça aussi que je veux savoir.
Ça, c'est
à cause de maman ou pas?
C'est ça. Parce que c'est ce qu'il arrête pas de dire. Ah, tu t'en veux à ta mère?
Oui.
Non.
Un petit peu. Un petit peu.
Ah ouais, tu te dis, si elle avait pas eu son diabète, j'en aurais peut-être pas.
Oui.
On sait pas. Hein. Après moi, on m'a dit à l'époque c'était dû à un choc émotionnel. J'étais à une période très 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 stressée, donc est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je sais pas.
Donc je suis le professeur Jacques Beltrand, je suis pédiatre de formation. Je travaille à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris et je suis en charge de toute la diabétologie pédiatrique dans l'hôpital. Alors les enfants qui arrivent ici souvent arrivent après plusieurs semaines ou mois d'un petit peu d'errance diagnostique puisque malheureusement le diabète c'est encore une maladie qui est trop peu connue en France du grand public. C'est pourtant en train de devenir une des maladies chroniques les plus fréquentes de l'enfant. Des enfants qui se mettent à boire beaucoup et à faire beaucoup pipi. Alors quand je dis boire beaucoup, c'est des enfants qui boivent jusqu'à 3, 6, 7 litres par jour et qui, par exemple, ne peuvent pas passer une nuit complète sans faire pipi 3 ou 4 fois pendant la nuit.
Alors quand un enfant a un diabète et qu'il arrive chez vous, comment ça se passe en fait?
Il y a une prise en charge en urgence où il faut débuter le traitement en urgence de la maladie et ce traitement, c'est l'insuline. Ensuite va arriver une deuxième phase qui est extrêmement importante, qui va être l'annonce diagnostique. Donc on imagine bien que voilà, on annonce une maladie chronique à une famille qui malheureusement pour l'instant est incurable. On les garde en hospitalisation pendant 10 à 15 jours. Et puis on a tout un programme de ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique avec des médecins, des infirmières, des diététiciennes où on leur apprend la gestion au quotidien de la maladie. Les patients passent parfois jusqu'à 12 à 16 heures avec l'infirmière d'éducation, au moins 4 heures avec les médecins, au moins 6 à 8 heures avec les diététiciennes. Oui, ça fait une charge. Alors évidemment, on ne fait pas tout d'un coup, hein. On découpe en séance, mais...
Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre?
Comment on fait le traitement, parce que ce n'est pas naturel pour un parent de devoir piquer son enfant. On leur apprend la surveillance. On va leur apprendre à construire un repas équilibré pour pas que la glycémie soit trop élevée. Des extras dans les périodes d'extra, donc à Pâques on mange du chocolat, à Noël on mange la bûche, quand c'est son anniversaire on mange un gâteau, quand on est à la plage on mange une glace, voilà.
Est-ce que les piqûres aujourd'hui c'est un vrai problème? C'est une douleur qui pour certains enfants est insoutenable.
Alors les injections d'insuline chez la majorité des enfants ce n'est plus un problème de douleur. Maintenant, il y a des aiguilles qui sont extrêmement fines, des stylos à insuline qui vraiment avec des pistons qui sont très souples, qui fait que les choses se passent très bien. Après, ça reste une piqûre, hein, donc il y a quand même un certain pourcentage d'enfants, c'est pas la majorité, mais chez qui ça fait mal, ou chez qui le geste de devoir se piquer est quelque chose qui les dérange ou qui, voilà. Donc ça, il faut être à l'écoute des familles et des enfants. Et puis, pas hésiter à leur proposer rapidement une pompe à insuline si ça devient inconfortable.
Mmh. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, quand vous annoncez un diagnostic, c'est moins lourd qu'il y a 15 ans parce que les choses s'améliorent, parce que vous avez un discours plus positif à pouvoir offrir?
Alors, oui et non. Je dirais qu'annoncer une maladie chronique à des parents d'un enfant, c'est toujours aussi lourd qu'il y a 10 ans parce que c'est toujours un événement aussi traumatisant. Mais par contre, la projection que les parents peuvent avoir du futur de leurs enfants est quand même beaucoup plus claire que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et c'est vrai que les enfants qui sont diagnostiqués maintenant vont connaître toute une révolution thérapeutique qui fait que leur traitement probablement va s'alléger en fait. Donc,
vous êtes optimiste ?
Ah oui, moi je suis très optimiste parce que depuis que j'ai commencé en 15 ans, j'ai déjà vu tellement de choses que oui, on va voir plein de belles choses pour les patients atteints de diabète.
L'optimisme du professeur Beltrand s'appuie sur des bases solides. L'espérance de vie des diabétiques a aujourd'hui rejoint celle de la population générale et on pense pouvoir un jour réimplanter des cellules capables de sécréter l'insuline. Par ailleurs, le pancréas artificiel n'est plus une chimère. Véronique Julia a rendez-vous avec deux grands spécialistes de ces deux voies de recherche.
Donc je suis Éric Renard, je suis chef du service d'endocrinologie, diabète, nutrition au CHU de Montpellier.
Éric Renard, vous êtes professeur de diabétologie. Pour vous, l'avenir, c'est quoi? Il est avant tout technologique dans la gestion du diabète?
Certainement que la voie technologique, ce sera la solution qui va avancer le plus vite. C'est là où il y a eu le plus rapidement des progrès ces dernières années. Le progrès, c'est le fait que l'insuline puisse être administrée en fonction des besoins du patient, estimée d'après une mesure continue du glucose. Donc un pancréas artificiel, en fait, c'est une mesure continue du glucose qui envoie une information à un algorithme, donc une formule mathématique, qui va calculer quel est le besoin d'insuline du patient pour les 30 minutes qui viennent. Et cet algorithme va piloter une pompe qui va donc délivrer la quantité voulue. Ça restaure ce que fait le pancréas, enfin les cellules bêta du pancréas, c'est-à-dire délivrer de l'insuline en fonction du niveau de la glycémie. La différence, c'est que le patient a sa charge mentale de prise en charge de la maladie qui est considérablement réduite. En fait, le système fonctionne pour lui, donc il est tout seul, il n'a rien à faire. C'est libérer le patient de ce calcul permanent, lui redonner de l'insouciance. Le problème du diabète de type 1, c'est qu'on perd son insouciance, parce qu'on est sans arrêt en train de se préoccuper de qu'est-ce qui va pouvoir nous arriver. Le plus bluffant, c'est la nuit, parce que la nuit, ils arrivent à avoir une glycémie qui est quasiment normale toute la nuit, à 90%. Ils se réveillent tous les matins à 1 gramme par litre, ce qui est un vrai miracle quand on a un diabète de type 1. Alors, surtout chez les enfants, parce que les enfants ont un diabète extrêmement instable, avec des besoins d'insuline qui changent du tout au tout, d'une nuit à l'autre, d'une journée à l'autre. Et donc, ça a un retentissement sur toute la famille. C'est-à-dire que les mamans ou les papas qui passaient leur nuit à surveiller leur enfant, ils dorment. C'est vraiment... Dans une vie professionnelle, on a peu l'occasion de voir ça, de voir une vraie révolution thérapeutique et combien ça change la vie des gens, de leur famille. Enfin, c'est vraiment émouvant, d'une certaine façon. Une vraie révolution, tout ça en 40 ans.
De toute façon, l'avenir, c'est aussi la miniaturisation de ces choses-là, j'imagine, non?
Oui, c'est la miniaturisation, c'est le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul dispositif. C'est-à-dire, si on pouvait avoir le capteur, la pompe et l'intelligence artificielle, le tout en un, et si possible implantable, c'est-à-dire que là, on travaille là-dessus, on fait des travaux de recherche pour avoir un organe artificiel. C'est-à-dire que vous pourriez mettre dans la taille d'une une petite soucoupe, vous pourriez tout mettre dedans. Le capteur, l'insuline et l'intelligence artificielle. Et on vous l'implante dans la paroi du ventre. Et vous êtes tranquille pour 10 ans. Mais ça, c'est pas de la science-fiction. Hein. On doit faire en principe les premières implantations dans 4 ans. Donc c'est... Oui, c'est demain.
Alors Bertrand Blondeau, vous êtes professeur de physiologie à Sorbonne Université. On a vu qu'une des pistes pour améliorer la prise en charge du diabète, c'est la technologie, le pancréas artificiel, donc des machines qui jouent le rôle du pancréas en fait. Il y a aussi tout le travail sur le vivant, c'est-à-dire imaginer qu'un jour, le pancréas des diabétiques qui ne produit plus d'insuline puisse à nouveau en fabriquer. Ce travail du vivant, il en est où? Est-ce qu'il est plus long, plus laborieux, plus lointain comme perspective?
Alors effectivement, ça sera toujours un travail qui prendra beaucoup plus de temps, parce que pour comprendre le vivant, on est obligé de travailler sur des modèles un petit peu éloignés de l'homme. On va travailler sur l'animal de laboratoire. Donc tout ce qu'on va pouvoir identifier ou comprendre chez l'animal doit à un moment être transposé chez l'homme. Toutefois, c'est des modèles qui sont extrêmement puissants, puisque ça nous permet de bien analyser comment le pancréas possède cette capacité à former des nouvelles cellules bêta. Et ça, c'est des choses qu'on a identifiées chez l'animal. On a identifié dans le pancréas une capacité à faire des nouvelles cellules bêta à partir de populations de cellules qui sont dormantes, qui sont présentes dans le pancréas et qu'on peut réveiller. On essaie de comprendre comment et quels signaux permettent à ces cellules de se réveiller. Et ensuite, on va essayer de comprendre jusqu'à quel niveau on peut récupérer une sécrétion d'insuline qui permettrait d'apporter de l'insuline à partir du pancréas ainsi régénéré. Et donc, une sorte de thérapie, non pas par de l'apport exogène extérieur d'insuline, mais plutôt de l'apport intérieur d'insuline par des nouvelles cellules qu'on aurait régénérées.
Enfin, c'est ce dont rêvent tous les diabétiques, parce que c'est la fin des piqûres.
Alors, ça, c'est la fin des piqûres, mais c'est surtout le début d'une aventure, parce que ce genre de découverte qu'on fait chez l'animal, en laboratoire, on est au minimum à 10-15 ans de la mise sur le marché d'une molécule qui permettrait de récupérer une sécrétion d'insuline. Donc, je dis 10-15 ans, ça pourrait être accéléré par des avancées technologiques, mais en tout cas, ça va prendre un certain temps. Donc, c'est effectivement quelque chose de très prometteur, mais qui ne pourra pas demain permettre aux patients diabétiques de récupérer un bon contrôle de leur glycémie.
Ça marche chez l'animal? C'est chez la souris que vous travaillez? Est-ce que ça marche?
Alors ça marche très bien chez l'animal, on a récupéré, donc on travaille sur des modèles de souris diabétiques effectivement, et on peut avec notre traitement récupérer, former des nouvelles cellules pour sécréter plus d'insuline. On récupère pas encore complètement un contrôle de leur glycémie totale, mais en tout cas on peut recréer, régénérer des cellules productrices d'insuline dans le pancréas des souris diabétiques.
De la souris à l'homme, on comprend que cette révolution n'est pas pour tout de suite, mais pas totalement improbable non plus. Pour un petit garçon comme Ellie, qui a 10 ans, c'est un rêve encore, mais sans doute aussi une vraie perspective.
Pour aller vers le pancréas artificiel, pour moi, il devrait plutôt essayer de créer les cellules. Enfin, je sais qu'ils essayent de le faire en ce moment, les médecins, de créer les cellules, de les faire eux-mêmes, d'ouvrir le ventre, de mettre les cellules, de refermer le ventre, et comme ça, t'as tes cellules du pancréas, et ça remarche, et voilà, t'as plus le diabète.
Tu serais prêt à te faire ouvrir le ventre pour qu'on te mette des cellules ?
Oui.
Plutôt que toutes ces pompes et tout ça. Mm-hmm.
Diabète, sauvé mais pas encore guéri, c'était un reportage de Véronique Julien. Prise de son Nicolas Mathias, mixage d'Ofar Guéril. Réalisation Charles De Silla, assisté de Martine Messonnier. Un reportage disponible à la réécoute dès maintenant sur franceinter.fr. Thank you.